Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Bonjour à tous et bienvenue sur Les Cousins Théologiens pour un nouvel épisode. Et malgré tout ce que notre pays vit, Les Cousins Théologiens continuent à distance, moi comme d'habitude. Donc salut Maxime.
Salut à tous.
On espère que vous allez bien, Maxime, j'espère que tu vas bien, c'est pas trop chargé pour toi ?
Non, ça va, ma fac a décidé de maintenir les examens malgré la distance, donc finalement le confinement ne m'allège pas et ça change pas de d'habitude puisque je dois quand même être enfermé pour réviser.
Exactement, bon bah c'est pas plus léger pour Maxime, dommage, mais on trouve quand même un moment pour enregistrer un nouvel épisode. Merci pour tous les retours que vous nous faites, désolé d'avoir un peu de retard parfois dans les épisodes qu'on lance. Et aujourd'hui, on va parler de l'assurance du salut. On n'en a jamais parlé dans ces épisodes, ou en tout cas, jamais parlé en tant que tel dans un épisode en particulier. Et on espère que ça sera encourageant pour vous de nous rappeler ces vérités précieuses de la foi chrétienne et que ça vous encouragera également. Donc Maxime, est-ce qu'on pourrait commencer juste en définissant un peu ce qu'on entend par là et peut-être ce qu'on n'entend pas par là quand on parle de l'assurance du salut? Est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots par rapport à ça?
L'assurance, peut-être que c'est peut-être plus facile de commencer en disant ce qu'elle n'est pas, et en particulier les fausses représentations qu'on a pu avoir dans l'histoire de l'assurance. Et je pense en particulier à la théologie catholique romaine qui ne conçoit l'assurance que comme une espérance probable. En gros, voilà, on espère qu'un jour on ira au ciel, et ça serait un peu ça l'assurance chrétienne, une espérance joyeuse, certes, mais incertaine. Et l'assurance, quand on parle d'assurance chrétienne, on parle en fait de certitude. On parle de promesses divines et de quelque chose duquel on est certain. C'est la certitude qu'on est enfant de Dieu, la certitude que, oui, certes, après notre mort, on ira au ciel, mais que dès aujourd'hui, il entend nos prières, il y répond, qu'il est notre Père, que la paix est faite entre lui et nous et qu'on peut l'approcher librement. Et en fait, cette assurance, elle est partout dans l'Écriture. Elle est quand on prie, quand on dit notre Père, bah, on est en train de dire qu'on est ses enfants. Quand on dit je crois en Jésus-Christ, on est en train de dire que on fait partie des croyants. Quand on rejoint l'Église, et donc c'est vraiment une vérité cardinale dans la Bible.
Et que c'est pas quelque chose voilà, une incertitude, qu'il n'y a pas de doute là-dedans. C'est pas comme si on était, voilà, sur une mer qui bougeait un peu, mais on est sur du sol qui est solide, sur du béton. On repose ces vérités. Et ultimement, ça se base sur des faits qui sont objectifs, sur Christ, sur son œuvre, sur le salut de Dieu.
Oui, exactement. Et tout comme on a pu le dire dans l'épisode sur la justification, autant notre justification objectivement est certaine quand on croit en Christ, autant notre assurance doit être certaine puisque c'est en fait l'assurance d'être justifié. Donc, puisque la justification ne varie pas selon nos œuvres, notre assurance ne devrait pas non plus. Et justement, pour prolonger un peu ça, en quoi tu penses, Benjamin, que c'est une bonne nouvelle, l'assurance du salut?
Ouais, c'est une merveilleuse nouvelle, hein, et qui, comme tu le dis, qui est liée, enfin, quand on parle de toutes ces réalités de l'évangile et du salut, on n'est pas en train de les distancer les unes des autres. Elles vont toutes ensemble, elles sont toutes aussi merveilleuses les unes que les autres. Mais c'est une nouvelle merveilleuse de savoir que on est juste aux yeux de Dieu et que ça, c'est une certitude, que c'est qu'on n'a pas à se lever le matin en se disant, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour pouvoir gagner la faveur de Dieu? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour pouvoir être sûr que je suis à Christ, que je fais partie de que Dieu est mon Père? Qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir dans ma vie? Comment est-ce que je vais pouvoir enlever la culpabilité qui est la mienne? Non, on se lève en sachant qu'on est déjà en bonne relation avec Dieu. Il y a ce verset magnifique dans Romains 5, ainsi donc, étant déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons cette paix. C'est une certitude, c'est quelque chose de réel, et c'est quelque chose qui fait qu'on peut avoir un grand repos pour notre âme. Et c'est ce qui distingue aussi la foi chrétienne de toutes les autres religions, en disant que c'est pas, voilà, qu'on n'est pas en train de donner, comme tu disais, une espérance vague, mais une espérance certaine, et qui n'est pas de l'arrogance. Souvent, quand on dit ça à nos amis qui sont pas chrétiens, et je pense aux amis musulmans en particulier, de leur dire, mais moi je sais que je suis sauvé parce que j'ai cru en Jésus, de se dire, mais c'est arrogant de dire ça. Est-ce que tu es une meilleure personne que les autres? Mais non, justement, c'est de dire que je suis pas une meilleure personne que les autres, mais le salut que Dieu a accompli est efficace, le salut que Dieu a accompli est parfait.
En fait,
Et ultime.
ça ne devient arrogant que quand on a une mauvaise compréhension du salut.
Exactement,
Et c'est vraiment comme ça, ce que je disais en off avant qu'on enregistre l'épisode. C'est une des manières vraiment de reconnaître les distorsions du christianisme. C'est si on se met à penser que l'assurance est quelque chose d'arrogant, ben c'est qu'on la fait reposer sur nous en fait. Et on aurait l'impression que c'est quelque chose qu'on fait qui nous donnerait l'assurance.
Exactement. Et donc, si le salut est l'œuvre de Dieu du début à la fin, alors dire que je suis sûr que je suis sauvé, c'est juste rendre gloire à Dieu, parce que ça veut dire, mais Dieu, ce que Dieu a fait était pleinement efficace. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il n'y a plus rien qui manque. L'œuvre de la croix, de Christ à la croix était suffisante. Le sang de Jésus qui a coulé m'a réellement donné une bonne relation avec Dieu. Et ça, c'est réel, c'est certain, et ça donne beaucoup de paix, beaucoup d'assurance dans ces moments incertains qu'on vit en ce moment. Mais on peut se dire, mais en fait, ça, je sais que c'est vrai. Ça, je sais que c'est réel. Et même si tout s'écroule autour de moi, je sais que je suis sauvé, je sais que j'ai une bonne relation avec Dieu, je sais que je vais passer l'éternité avec lui. Même si on m'enlève mon travail, même si je perds ce qu'il y a de plus cher dans ma vie, mais ces faits restent réels et objectifs.
Alors, il y a un passage qui me vient en tête, et je ne sais pas si tu as la référence ou la formulation exacte, mais il me semble que c'est dans la première épître de Jean, où il me semble que Jean dit qu'il écrit ceci afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle ou quelque chose comme ça.
Dans 1 Jean 5, 13, et vu que j'ai trouvé la référence avant toi, tu me dois un kebab.
Ah mince.
ouais, non, exactement. Dans 1 Jean 5, 13, Jean écrit, j'allais dire Paul écrit, ça fait moins un kebab. Jean écrit, je vous écris cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc il n'écrit pas ça, et on voit par là le but de Jean quand il écrit sa lettre. C'est toujours bien d'être au clair sur le but des auteurs de bibliques quand ils écrivent leur lettre ou leur livre, pourquoi est-ce qu'ils écrivent cela. Et on voit que Jean écrit pour donner la certitude de l'assurance du salut, pas pour donner cette assurance du salut, dans le sens de rendre quelque chose de leur donner quelque chose qu'ils n'avaient pas, mais pour leur dire, mais vous avez cette assurance, dans le sens où c'est quelque chose qui est déjà réel pour eux. Ça ne veut pas dire que c'est forcément ressenti pour eux, et on y reviendra plus tard, qu'on peut lutter avec ça, mais afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, c'est pas quelque chose que vous devez obtenir, c'est quelque chose que Dieu vous a déjà donné, que Dieu a déjà accompli pour vous. Autre chose par rapport à ça, ou on passe à la question suivante?
Non, ça, j'ai pas d'autres idées par rapport à
Super.
ça.
Justement, donc par rapport à ce que je disais, c'est pas forcément toujours ce qu'on ressent. On peut se dire, mais quelqu'un peut se dire en écoutant ce podcast, mais je crois à l'évangile, je crois que Jésus est pleinement efficace pour me sauver, mais pourtant j'ai des doutes réels, sérieux par rapport à l'assurance de mon salut. Donc est-ce qu'un chrétien, Maxime, peut douter de son salut?
Ouais, c'est ce que je pense, et je ne suis pas le seul à le penser. Je vais lire une ancienne confession de foi à ce sujet, parce que je trouve qu'elle formule très bien les choses. La confession de foi de Westminster, donc au chapitre 18, paragraphe 3 et 4, elle dit, paragraphe 3, « Cette assurance infaillible n'appartient pas à l'essence de la foi. Aussi, un vrai croyant peut-il attendre longtemps et se battre avec mince difficulté avant de l'avoir. » Et paragraphe 4, « Chez les vrais croyants, l'assurance du salut peut être ébranlée, diminuée et temporairement perdue de diverses façons. » Et ils décrivent ensuite ces diverses façons. Donc ce que nous dit cette confession, et je pense qu'elle a raison, c'est que non seulement un croyant peut lutter avant de l'atteindre, mais même un croyant qui l'a eue peut être amené à la perdre. Et c'est tout simplement une épreuve pour la foi. Et il y a une petite phrase au début, peut-être qu'il faudrait éclaircir, où elle dit « Cette assurance n'appartient pas à l'essence de la foi. » Ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'on peut avoir la foi sans avoir l'assurance. J'aime bien l'illustration qu'utilise Joël Bick, où il dit que la foi et l'assurance, c'est un peu comme le lait et la crème, c'est-à-dire que les deux habituellement vont ensemble, mais on peut quand même les distinguer. On ne devrait pas les séparer, mais ils peuvent être distingués, et parfois, de manière anormale, ça peut être perdu, séparé. Donc oui,
Exactement.
un chrétien qui doute, ça ne veut pas dire que son salut est moins certain. Hein. Le salut de Dieu est certain. Par contre, la certitude que nous en avons, elle est variable.
Exactement. Et la distinction là qui est faite entre redis comment c'était formulé là, l'essence, etc. là.
Le lait et
J'ai
la
mon
crème?
cerveau qui explose. Non, non, ce que tu citais là,
Ah,
la foi,
l'essence de la
l'essence,
foi?
machin. Ouais, c'est ça. Voilà, oui, c'est ça. Donc l'assurance du salut ne fait pas partie de l'essence de la foi, et c'est important de distinguer ça parce que ce qui sauve, c'est pas le fait d'être sûr de son salut. Ce qui sauve, c'est la foi qu'on place en Christ pour être sauvé. C'est l'objet de la foi qui sauve. Et à ce titre-là, on en a déjà parlé dans ce podcast. Le livre de Pascal Denos, Le côté obscur de la vie chrétienne, est vraiment excellent. Et il a une partie, la première partie traite justement des doutes par rapport à la foi. Quand on doute par rapport à notre salut, c'est quelque chose qui est réel, qui peut arriver. Il y a plusieurs punchlines dans ces premiers chapitres, mais l'une d'elles, il dit ceci. Ce qui détermine si une personne est sauvée, ce n'est pas le fait qu'elle le sache, mais bien qu'elle croit au nom du Fils de Dieu. Et c'est ça la foi, c'est de placer sa confiance en Christ pour être sauvé. Et c'est ça qui sauve. C'est pas la certitude qu'on a par rapport à ça. Et il donne une illustration très utile, je trouve, par rapport à ça, d'un homme qui a été dépisté de cancer. Il a, voilà, hein, il y a eu un diagnostic. Enfin, en fait, il attend le diagnostic qui sera posé par rapport à ça, mais il croit vraiment avoir le cancer. Et donc, il est dans la salle d'attente du médecin. Il est très nerveux. Il a aucune joie. Il essaye de penser à autre chose, mais il n'y arrive pas. Il est vraiment négatif. Il se dit, mais c'est sûr, je suis malade. Les nouvelles seront mauvaises. Et il est vraiment au plus bas. Il a aucune certitude qu'il va bien. Et ensuite, il rentre dans la salle du médecin et il ressort de la salle du médecin en étant joyeux, en sautant de joie, en étant au plus haut parce que le médecin lui a dit que, en fait, monsieur, vous êtes en bonne santé, vous avez rien. Et donc, Pascal Denot, il utilise cette illustration pour montrer qu'il n'y a rien qui change entre l'homme avant le verdict du médecin et après, dans le sens où sa santé n'a pas changé. Il était en bonne santé avant, il est en bonne santé après, mais sa perception de sa santé a changé. Et c'est un peu ça qu'on peut comparer par rapport à l'assurance du salut. Et Pascal Denot termine en disant, en représentant deux chrétiens, il n'y a pas de différence, un qui doute et un qui ne doute pas. Il n'y a pas de différence entre le salut de l'un et de l'autre, mais un seul possède l'assurance, tandis que l'autre est constamment en proie à l'angoisse du doute. Mais cela ne change pas la réalité de son salut, la réalité
Exactement.
objective de son salut.
D'ailleurs, non seulement le salut ne dépend pas de l'assurance, mais il ne dépend même pas de la force de notre foi. Et ultimement, il ne provient même pas de la foi. La foi, c'est ce qui saisit le salut, mais le salut est objectif avant même que la foi le saisisse. C'est simplement un moyen que Dieu utilise pour nous unir à Christ et nous sauver, mais il ne faut pas croire qu'on se sauve en croyant ou que notre foi aurait une telle vertu qu'elle nous sauverait par elle-même. C'est vraiment l'œuvre de Christ qui nous sauve.
Exactement, ouais. C'est une distinction super importante ça à faire. Et allez, une autre punchline de Pascal pour la route par rapport à ça. Il dit la foi, tout en étant imparfaite, faible et accablée par des doutes, est authentique si elle a le Christ pour objet. Et c'est important de réaliser que souvent on se sent faible, souvent on sent que ma foi n'est pas, enfin j'ai très peu de foi. Mais c'est pas ça qui importe, pas dans le sens de dire qu'on ne doit pas progresser dans la vie chrétienne, qu'on ne doit pas aller de progrès en progrès, chercher à plaire à Dieu, etc. Mais ce qui compte, c'est celui en qui on place notre foi, l'objet de notre foi. C'est Christ qui sauve, et c'est ce qu'il a fait à la croix. Donc ça c'est utile à garder en tête.
Exactement.
Et comment Maxime du coup grandir dans cette assurance si on veut si c'est quelque chose qui ne fait partie de l'essence de la foi mais qu'on peut avoir ou ne pas avoir et s'il y a des moyens de grandir dans la perception qu'on a de l'assurance de notre salut
Ouais, je pense que si un chrétien peut la perdre, si un chrétien peut ne pas l'avoir pour un temps, je pense qu'aussi qu'un chrétien peut l'avoir à des degrés divers, ou plutôt s'en réjouir plus ou moins en fonction des circonstances, tout simplement s'il y pense ou pas. Et ça me rappelle le psaume 51 où David prie Rends-moi la joie de mon salut. Et donc, je pense qu'il y a des moyens concrets de pouvoir se réjouir à nouveau de notre salut et profiter de cette assurance. Tout comme la foi vient du fait qu'on entend la parole de Dieu, je pense que l'assurance aussi. Et du coup, le premier endroit, le premier lieu, en quelque sorte, où notre assurance fleurit et grandit, c'est dans la parole de Dieu, dans ses promesses. Et ces promesses, on les trouve dans la Bible. La Bible, quand on la lit, la Bible, quand on l'entend prêcher, on les trouve aussi dans tout ce que Dieu a utilisé pour nous rappeler ses promesses, le baptême, la scène et les moyens de grâce. Donc, je dirais, se prêcher l'évangile, se rappeler l'évangile, soit par la bouche d'autres, soit à nous-mêmes en lisant la parole, c'est le moyen principal de grandir en assurance. Quand on entend que Jésus-Christ est venu pour sauver des pécheurs, par exemple, et qu'on se sait pécheur, et ben notre assurance est fortifié, tout simplement parce qu'on réalise que Jésus est venu pour des gens comme nous, donc il n'y a pas de raison qu'on soit trop pécheur ou trop mauvais pour lui. C'est un exemple. Ensuite, l'autre moyen de grandir en assurance, c'est un moyen qu'on ne contrôle pas tellement nous-mêmes, mais c'est l'esprit. Paul en parle, hein, et ça fait presque partie de la définition de l'assurance. Paul en parle dans le passage en Romains 8, il me semble que c'est celui que tu avais lu, où l'esprit témoigne à notre propre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et en un sens, il ne faudrait pas croire que l'assurance, il y a une recette pour la faire grandir. C'est quelque chose que l'esprit opère en nous. Et un dernier conseil que je donnerais pour grandir en assurance, c'est de ne pas regarder sa foi ou la force de sa foi. Ce que j'aime bien dire, c'est que la foi est comme comme un œil, c'est-à-dire elle est faite pour regarder Dieu et pour regarder les promesses de Dieu et pas pour se regarder soi-même. Hein. Si un œil, si vous essayez de regarder votre œil avec votre œil, vous verrez rien. Mais si vous regardez quelque chose, alors là, votre œil fonctionnera et vous aurez une vision claire. Et c'est un peu la même chose pour la foi. Regardons les promesses de Dieu, regardons Dieu lui-même, ce qu'il est, et la foi et l'assurance grandiront ensemble. Tandis que si on reste centré à savoir si notre foi est grande, bah, il y a des chances à ce qu'on ne perçoive pas grand-chose.
Excellent, merci. Ouais, et si vous voulez creuser plus là-dessus, parce que comme tu le mets en avant, il y a des éléments subjectifs. L'esprit qui témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu, c'est quelque chose de subjectif qu'on peut pas mesurer dans un sens, mais il y a des éléments objectifs qui se reposent sur les promesses de Dieu dans l'écriture, sur la réalité de ce que Christ a fait. On voit aussi ça avec regarder l'évidence de la grâce de Dieu dans notre vie. De voir mais notre passé, comment Dieu nous a rachetés, la manière dont on vivait, nous a transformés sur le temps. Et Pascal Deneau, encore lui, dans son livre, met en avant les trois piliers. Alors, c'est pas quelque chose que lui, il a mis en avant premièrement, hein, mais que la théologie historique reconnaît, les trois piliers de l'assurance du salut. Et donc, je vous encourage à voir ça dans son livre. C'est à la page 53 du livre Le côté obscur de la vie chrétienne, qui peut aussi nous encourager là-dessus.
Est-ce
Maxime,
qu'il y aurait
pour ta...
un pilier que j'aurais
Ouais.
manqué?
Non, je pense que tu as dit les trois éléments. Hein. Donc, il y a le. Bon, du coup, je voulais pas en parler, mais j'en parle quand même. Le premier pilier, c'est les réalités objectives de ce que Christ a fait à la croix, le sang de Jésus qui a coulé, l'évangile, l'accomplissement, la propitiation de ce que Christ a fait. Le deuxième pilier, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous, la grâce de Dieu qui œuvre en nous pour nous changer, pour nous transformer. Et on voit comment Dieu nous change, on voit l'œuvre de la grâce dans notre vie, le fruit qu'on porte, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et le troisième pilier, c'est l'œuvre subjective de Dieu, l'esprit qui témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu et on sait au fond de nous qu'on est sauvé. Et c'est là où même dans les moments les plus bas, quand rien ne va, quand on est découragé, on peut se dire, mais je sais que c'est vrai, je sais que l'évangile est vrai. Mais il montre que c'est comme un tabouret à trois pieds où il faut pas qu'il y ait on peut pas s'appuyer sur un seul des pieds. Parce que si on s'appuie juste sur le côté subjectif, bah, il y a des moments où nos émotions s'y mêlent et sont pas justes et on ne doit pas se reposer uniquement sur ça. Si on se repose uniquement sur l'œuvre de la grâce de Dieu dans notre vie, mais comment on fait dans les jours où on a vécu une journée qui n'était pas à la hauteur de ce que Dieu attendait de nous, où on a fait péché sur péché dans un sens, où on n'a pas passé de temps dans la parole, où on s'est disputé avec quelqu'un, où on a eu la haine dans notre cœur, où on a convoité. Est-ce qu'on se dit, mais alors dans ce cas, ben voilà, je suis plus sauvé. Non, en fait, si on se repose sur ces trois piliers, ça donne une base solide pour notre assurance et pour notre assurance chrétienne. Ok, Maxime, pour terminer gentiment, est-ce que tu verrais des dangers à cette doctrine? Alors bien sûr, toujours quand on dit ça, des dangers à cette doctrine, c'est pas la doctrine elle-même qui est dangereuse, parce que cette doctrine est merveilleuse et précieuse et comme toutes les autres doctrines de la Bible, mais des moyens qu'on pourrait tordre cette vérité plutôt.
Ouais, bah, je pense il y a quelque chose qui doit nous frapper dans l'Écriture, c'est le nombre de fois où Paul avertit les croyants. Et je pense, bah, pas uniquement Paul d'ailleurs, Jean le fait souvent aussi. Et je pense que cette réalité, déjà dans l'Ancien Testament, doit nous faire comprendre qu'il y a des gens qui s'illusionnent eux-mêmes, qui se croient membres du peuple de Dieu et qui ne le sont que de nom. Et c'est une réalité grave, c'est une réalité pour laquelle les auteurs bibliques ne mâchent pas leurs mots. Et donc on doit considérer les avertissements bibliques à ce sujet. Et je ne pense pas que c'est des avertissements du type si vous péchez, attention, vous n'êtes pas certainement pas des vrais enfants de Dieu, mais c'est plutôt notre attitude vis-à-vis du péché, ne pas le minimiser. Je pense aux endroits où Paul dit... Ne vous y trompez pas ou que personne ne vous trompe. Souvent, il vient de parler de péché quand il dit ça, et il a cette formule qui revient dans plusieurs de ses épîtres où il dit, attention, ne vous y trompez pas, c'est à cause de choses comme ça que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, que les impudiques, etc., n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc toutes ces formules doivent nous faire comprendre que si on croit que le salut nous ouvre la porte au péché libre, en fait, au péché sans risque de sentence, bah, c'est un bon signe qu'on n'a pas compris la grâce et qu'en fait on n'en est pas au bénéfice. Alors je ne sais pas si on peut être totalement catégorique là-dessus, parce que je pense qu'on grandit en compréhension de la grâce au cours de notre vie. Néanmoins, il y a vraiment des signes qui doivent nous alerter. La vraie grâce de Dieu ne doit pas entraîner une tolérance vis-à-vis du péché. Et s'il y a une telle tolérance dans notre cœur, ces avertissements s'adressent à nous et on ne peut pas se consoler, se conforter par une fausse assurance.
Ouais, merci. C'est utile. Et là encore, c'est pas une doctrine qui est faite pour nous décourager, nous rabaisser si on est croyant, parce qu'on sait que même dans nos luttes, même dans nos chutes, même quand on ne le mérite pas, justement quand on ne le mérite pas, c'est là que Dieu est intervenu pour nous sauver. Mais cette grâce, et comme on avait parlé à d'autres reprises, la grâce de Dieu n'annule pas sa sainteté, et Dieu reste Dieu, le péché reste le péché, et on veut prendre ça au sérieux. Et donc c'est j'ai du mal, j'ai pas envie d'utiliser le mot équilibre parce que je trouve que c'est un peu un mot qu'on met à toutes les sauces, mais il faut garder ça en tête, garder ça à l'esprit que on a besoin d'être averti parfois, et les avertissements sont nécessaires. Super. Autre chose là-dessus, Maxime?
Rien de particulier. Je
Super. Alors on a
constate juste
pu.
que tous nos podcasts dérivent pour parler de l'évangile et c'est une bonne dérive, je pense.
Amen, amen, exactement. Et donc, si vous êtes chez vous, vous vous ennuyez, confiné à ne plus pouvoir sortir sans autorisation, eh bien allez sur Spotify ou sur Google, les trucs de podcast Google, ou sur les podcasts de Apple ou sur SoundCloud, et vous cherchez les cousins théologiens et vous pouvez vous faire l'intégrale des cousins théologiens. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en me disant qu'il a fait l'intégrale des cousins théologiens, c'est super encourageant.
Voilà, du coup,
Donc
juste pour
voilà,
lui, on
passe.
lui a rajouté un épisode, quoi.
Exactement, juste pour lui et pour vous aussi, on va rajouter des épisodes dans les semaines à venir. Donc courage à vous, chers
Et
amis,
je pense à autre
soyez
chose aussi,
encouragés. Ouais.
si vous avez du temps là, suggérez-nous des sujets à aborder qui vous intéresseraient durant cette période de confinement en particulier.
Exactement, excellent. Envoyez-nous vos sujets, comme ça motivera Maxime et moi à les faire. Et puis on publiera ça dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Super, merci Maxime, courage à toi pour retourner étudier.
Merci
Et
bien.
puis à bientôt. Salut à
À
tous.
plus tard.